François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris et nous allons ce soir avec vous aborder plusieurs sujets d'actualité d'importance. Alors on va commencer tout d'abord par le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël dirigé par le chef Lahav Shani, qui a été interrompu à plusieurs reprises. C'était jeudi dernier à la Philharmonie de Paris. Des activistes pro-palestiniens ont perturbé la représentation munie de fumigènes dans les gradins. 4 personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Et le Collège de France, lui, a annulé un colloque intitulé « Palestine et Europe, poids du passé et dynamique contemporaine » qui devait se tenir les 13 et 14 novembre, c'est-à-dire demain et après-demain. Le Collège de France a tenu à rappeler la stricte neutralité de l'établissement au regard des questions de nature politique ou idéologique. On notera la date du 13 novembre pour ce colloque, date des 10 ans des attentats de Paris au Stade de France, aux terrasses et au Bataclan.
Tout à fait Pierre, vous avez raison de mettre en parallèle ces deux événements, parce qu'ils sont, même si dans leur nature on a un peu l'impression qu'il n'y a aucun rapport, il y a un rapport. D'un côté, vous avez le Philharmonique d'Israël, cet excellent orchestre considéré par tous les spécialistes comme un des meilleurs orchestres de musique classique au monde, qui vient se produire à la Philharmonique à Paris, dans une salle comble, avec une sécurité renforcée, mais avec de nombreux appels au boycott, et notamment un appel scandaleux de la CGT Spectacle, qui demande de l'interdiction de ce concert. Ce concert a finalement lieu, et comme vous l'avez rappelé, il y a des incidents d'une violence extrême que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux et même à la télévision. Quelqu'un qui lance un fumigène dans une salle de spectacle où il y a plus de 2000 personnes, qui peut provoquer un incendie et donc des morts, des jets dans la fosse, des jets de trac, des violences. Et ce qui est frappant dans ce phénomène, c'est de quoi parle-t-on ? Ce sont des musiciens dont je connais certains d'entre eux, puisqu'ils ont été formés à l'Université de Tel Aviv, qui est la meilleure école de musique d'Israël, la Berkman School of Music. Ce sont des musiciens et ce sont des artistes sans engagement politique, sans discours politique, qui viennent se produire dans une salle à l'international. Eh bien, on veut faire taire la musique, on veut faire taire la culture. Ça me rappelle la phrase de Golda Meir quand Israël avait été chassé de l'UNESCO. L'UNESCO, les Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et Golda Meir, en rigolant, avait dit « c'est normal ». Qu'est-ce que les Juifs connaissent à l'éducation, la science et la culture? Et là, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que les Juifs connaissent à la musique? Et c'est à nouveau absolument scandaleux, parce que c'est de la discrimination. C'est un appel discriminatoire pour des soi-disant raisons politiques. Et il y en a même, évidemment, du côté de l'EFI, qui ont osé comparer ce type d'interdiction avec l'interdiction d'un concert d'un musicien russe, mais d'un musicien russe qui était le musicien préféré de Poutine et qui soutenait l'invasion en Ukraine. Donc c'était un musicien politique et c'était donc une interdiction politique. Là, il n'y avait rien de politique. Et surtout, ce qui est criminel, c'est que quatre factieux, quatre délinquants, d'ailleurs ils vont être poursuivis en justice et c'est une bonne chose, ont été arrêtés et auraient pu provoquer des morts en mettant le feu à cet orchestre. Donc c'est absolument scandaleux. Et pour conclure là-dessus, ce qui est quand même incroyable, c'est que je viens de voir que ces 4 personnes mises en examen portent plainte à leur tour pour violence, parce qu'ils ont été tabassés. Eh bien, il serait bien, très bien qu'ils portent plainte pour violence, mais qu'ils sachent que quand ils veulent s'attaquer aux Juifs, quels qu'ils soient, les Juifs ripostent aussi, parce que l'antisémitisme, c'est devenu inacceptable. En ce qui concerne le Collège de France, comme vous l'avez rappelé, je suis professeur affilié à Sciences Po, donc il y a toute la question des libertés académiques, et effectivement, un grand professeur du Collège de France, Henri Laurence, spécialiste de la Palestine, il a écrit tous ses ouvrages sur l'histoire de la Palestine, organise au Collège de France un colloque, il a tout à fait le droit d'organiser un colloque scientifique sur la Palestine. Là où ça commence à poser un problème, c'est que ce colloque est financé par le Centre arabe et de recherche et d'études politiques de Paris, beau nom, Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Tout ça a l'air assez légitime et clair, à part que ce centre est totalement financé par le Qatar. Le Qatar, dont on connaît les liens avec les frères musulmans et le Hamas. Et surtout, la composition du panel de ce colloque est absolument incroyable, puisque vous avez tous les représentants, à la fois universitaires de la radicalité pro-palestinienne, des universitaires français, à commencer par Henri Laurence, mais aussi François Burga, Agnès Levallois, et tant d'autres. Si vous regardez la liste et vous connaissez les différents intervenants, ce sont les plus extrêmes, et pour parler d'un sujet avec un biais idéologique marqué. Enfin, en conclusion de ce colloque, ils invitent trois politiques. Pourquoi pas, dans un colloque scientifique, on peut inviter des politiques, mais au moins essayons d'avoir un peu de diversité. Et là, les trois politiciens invités, c'est Borrell, Villepin et Albanès. Donc Borrell, l'ancien commissaire européen très pro-palestinien, Villepin qui ne cache pas ses liens avec le Qatar, et Albanès, dont même certains membres de l'ONU aujourd'hui ont honte de ses positions, puisque c'était des positions très alignées sur celles du Hamas. Donc ce n'était pas un colloque universitaire, c'était un colloque militant. Et à juste titre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, très courageusement, a rappelé au responsable du Collège de France, Thomas Sommer, par ailleurs très grand spécialiste de l'histoire des religions, que ce n'était pas un colloque universitaire, mais un acte militant, et qu'en plus il y avait des risques de troubles à l'ordre public, ce qui était évident vu la composition du colloque. Et Thomas Sommer a... Romer a, à juste titre, en tant qu'administrateur du Collège de France, demandé à Henri Laurence de ne pas tenir ce colloque. Et là, la réaction du CAREP, principalement, et d'Henri Laurence, c'est que ce colloque va avoir lieu quand même le 13 et 14 novembre, mais cette fois-ci dans les locaux même de ce centre de recherche. Alors c'est symbolique, mais c'est triste. Ce centre de recherche se trouve rue Rémoiron. Ce pauvre Rémoiron, s'il savait ça, il se retournerait dans sa tombe. Et l'autre chose qui est intéressante, qui prouve bien que c'était bien un colloque politique, c'est que le LFI, en la personne de Mathilde Panot, s'est précipité pour proposer que ce colloque se tienne à l'Assemblée nationale. Donc le soi-disant colloque universitaire était tellement important pour toute la gauche radicale islamisée qu'il fallait que ça se tienne à l'Assemblée nationale sous les auspices de LFI, ce qui montre bien la dangerosité de ce type de manifestation. Et le Collège de France, qui est l'institution universitaire la plus prestigieuse en France depuis 1530, n'avait pas besoin de cette opprobre, et Thomas Romer a été très courageux et très légitime, comme Philippe Baptiste, d'interdire la tenue d'un meeting politique dans l'enceinte de ce savoir. Et je rajouterai une petite chose sur le Collège de France. Il y a 10 ans, le Collège de France a signé un partenariat très actif avec l'Université de Tel Aviv, et Thomas Romer, d'ailleurs, est venu plusieurs fois à l'Université de Tel Aviv, parce qu'il travaille très souvent avec le grand professeur d'archéologie, Israël Finkelstein, et on les a même appelés les aventuriers de l'Arche perdue, parce qu'ils recherchent tous les deux l'Arche perdue sur les collines de Jérusalem.
C'est une belle image. Alors, autre date, le 12 novembre 2023. Il y a 2 ans, 182 000 personnes marchaient contre l'antisémitisme en France, 1 mois après les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, Le Parisien publie une enquête Ipsos BVA pour le CRIF où l'on apprend que 61% des Français disent comprendre la crainte de leurs concitoyens juifs et 68% jugent que l'antisémitisme en France est un phénomène d'ampleur.
Tout à fait. En fait, le CRIF a voulu saluer cette initiative prise il y a 2 ans par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, d'organiser cette manifestation et cette marche contre l'antisémitisme, comme vous l'avez rappelé, le 12 novembre 2023, donc tout juste 1 mois après les massacres du 7 octobre. Et cette mobilisation en France a été très importante, parce que comme vous l'avez dit, on a atteint presque 200 000 personnes qui ont marché contre l'antisémitisme, c'était une vraie mobilisation. Ce soir, il y aura d'ailleurs à 19h, au moment où nous parlons, une rencontre à la Maison de la Chimie avec Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet pour réfléchir sur l'évolution de l'antisémitisme en France, 2 ans plus tard, cette marche. Et c'est à l'occasion de cela que le CRIF a commandé ce sondage à BVA, Ipsos. Ce qui est intéressant, les grands enseignements, par exemple, l'appréciation des craintes des personnes juives en France. Quand on pose la question aux Français, diriez-vous qu'aujourd'hui, lorsqu'on est juif, il existe des raisons d'avoir des craintes de vivre en France? 35% répondaient oui en 2014, 64% en 2024 et 61% en 2025. Donc, presque 2 Français sur 3 considèrent que les juifs ont raison d'avoir des craintes de vivre en France, ce qui est assez tragique. Et quand on regarde analyser par âge et par sensibilité politique, on se rend compte que dans toutes les sensibilités politiques, on est à plus de 70%, sauf LFI, où il n'y a que 26% des électeurs LFI qui considèrent que les juifs ont raison d'avoir des craintes de vivre en France. Et surtout, et aussi chez les jeunes, chez les moins de 25 ans, ça tombe à 49%. Donc il y a, chez les jeunes et chez les électeurs LFI, une moindre conscience du niveau d'antisémitisme. L'autre question intéressante, c'est, selon vous, l'antisémitisme en France est-il aujourd'hui un phénomène répandu ou rare? 68% des Français considèrent qu'il est répandu. À nouveau, ça dépasse les 65-70% pour la plupart des partis politiques, y compris les socialistes et les écologistes, mais on n'est qu'à 48% pour la France insoumise. Donc la propagande de la France insoumise pour nier l'importance de l'antisémitisme en France, comme les déclarations de Mélenchon avec soi-disant l'antisémitisme résiduel, malgré la multiplication des actes, marche auprès d'une grande partie de l'électorat de la France insoumise. Les Français, sur un autre aspect, sont aussi très lucides. Quand on leur pose la question, direz-vous que l'antisémitisme en France est un phénomène plutôt répandu ou plutôt rare? Et quand on leur parle de différents médias où on peut rencontrer l'antisémitisme, ou de différents lieux où on peut rencontrer l'antisémitisme, le premier qui ressort, c'est les réseaux sociaux. 80% des Français considèrent que l'antisémitisme est répandu sur les réseaux sociaux, donc ils sont tout à fait lucides. Dans les médias, c'est 51%. À l'université, comme dans les collèges et les lycées, c'est plus de 50%. Dans les médias, c'est 50%. Là où en entreprise, on tombe à 25%. Donc les Français sont lucides sur à la fois l'ampleur du phénomène, mais aussi les mécanismes de diffusion de cet antisémitisme. Et quand on leur demande que... Avez-vous le sentiment, de manière générale, que la France, en France vis-à-vis de l'antisémitisme, on en fait trop, on agit au bon niveau, on n'en fait pas assez? Ben, à nouveau, une majorité considère qu'on n'en fait pas assez, donc ce qui est une bonne chose. Est-ce qu'il faut être plus ferme dans la lutte contre l'antisémitisme? Ils répondent oui à 81%. Oui à 80%, et même chez LFI, ils répondent oui à 60%. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même chez eux. Et sur la dureté des peines et des sanctions contre l'antisémitisme, 69% des Français considèrent qu'elles sont pas assez sévères ou pas bien appliquées. Donc là, c'est un message quand même envoyé à la justice sur le fait que les peines ne sont pas assez importantes. Et autre chose très intéressante, 71% se souviennent de cette marche du 12 novembre 2023. Et pourtant, l'actualité... comme vous le savez, vous, journalistes quotidiens, défile à une vitesse folle, c'était il y a 2 ans, ben, ils se rappellent, 71% se rappellent de cette marche qui les a beaucoup marché. Enfin, qui sont les partis qui sont les plus engagés contre la liste, contre l'antisémitisme? C'est les Républicains, Renaissance, le Parti Socialiste, après le Rassemblement National, et en tout dernier, la France Insoumise et les écologistes, ce qui est aussi un enseignement. Voilà donc pour les grandes implications de cette étude, et je suis sûr que vous allez couvrir la grande soirée du CRIF avec Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet sur cette thématique ce soir.
Tout à fait. Un mot pour finir sur Boualem Sansal, c'est finalement l'Allemagne qui a offert une porte de sortie à l'Algérie. L'écrivain franco-algérien âgé de 80 ans a été gracié aujourd'hui par le président algérien Tebboune, quasiment un an, jour pour jour après son arrestation, c'était le 16 novembre 2024.
Oui, c'est une nouvelle extraordinaire et on peut se réjouir que ce grand écrivain, c'est vraiment un des grands, grands écrivains français et algériens qui était emprisonné dans un emprisonnement politique. C'était quasiment une prise d'otage dans tous les sens du terme, puisqu'il n'y avait évidemment sur le fond aucun problème. Et d'autre part, c'est un écrivain qui a affronté de manière très lucide, comme écrivain, comme certains grands écrivains algériens, comme lui, comme Kamel Daoud, l'antisémitisme en Algérie, la fascination pour l'Allemagne nazie de l'Algérie, et notamment, je conseille vraiment à tous vos auditrices et auditeurs, s'ils ne l'ont pas fait, de lire Le village de l'Allemand, qui est une belle réflexion sur un Allemand nazi qui s'est reconverti au sein du FLN, et c'est une vraie réflexion. Et donc, tous les amoureux des livres, tous les amoureux de la liberté, ne peuvent se réjouir que de cette libération, car c'est un homme très courageux, et j'espère qu'il va vite rentrer en France et qu'il va pouvoir reprendre une vie saine et pouvoir être soigné, puisqu'il était aussi dans un état physique très atténué. Et donc je suis très heureux de cette conclusion, de cette triste affaire qui montrait à nouveau l'obscurantisme, la régression et la brutalité du régime algérien.
François Heilbronn, merci d'avoir été notre invité sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.